les mots ont une histoire et les langues évoluent, notamment parce que les enfants réinventent la langue en même temps qu'ils l'apprennent. On sait que le mot poisson vient du latin, comme beaucoup de mots français, mais dire que le français descend du latin ne signifie pas que le français est né tout armé du latin, comme Athéna de la cuisse de Jupiter. Au contraire, le français n'est qu'un dialecte tardif du latin, un latin métissé, parlé à un moment donné, sur un territoire donné, et naturellement, le latin lui-même n'est qu'un dialecte, parmi d'autres, issu d'une langue antérieure. Il fait même partie d'une vaste famille linguistique qui regroupe aussi bien le français et l'anglais que le russe, le grec, le hindi ou le persan. Avant de partir en quête des racines linguistiques du poisson à travers ces langues, depuis les rives de l'Atlantique jusqu'aux plaines d'Asie centrale, voyons donc comment on est parvenu à un tel regroupement en partant des langues attestées pour arriver à leurs ancêtres reconstruits. Il y a une allégorie qu'on utilise à propos de la physique quantique et qui me semble pouvoir aussi s'appliquer à la linguistique historique. Alors, imaginez deux extraterrestres qui débarquent sur Terre. Ces êtres étranges ont une particularité, ils ne peuvent pas voir les objets qui sont à la fois noirs et blancs. Un zèbre, par exemple. Or, voilà qu'ils tombent sur un match de foot, joué avec le traditionnel ballon à pièces noires sur fond blanc. Nos visiteurs ne peuvent pas voir ce ballon. Pendant le match, tout ce qu'ils voient, ce sont deux groupes humains qui courent bizarrement de long en large sur un terrain vert, qui essayent parfois de se faire des croche-pieds, et puis il y a la foule qui s'élève par moments et est transcendée de joie, ce qui est plutôt bizarre. Après un moment d'observation et de réflexion, un des deux extraterrestres formule une hypothèse. Il y a peut-être un objet invisible sur le terrain qui explique la présence des deux équipes et qui justifie leur comportement. Partant de là, nos extraterrestres vont comprendre le match et ses lois, et peut-être même devenir des supporters assidus. C'est ainsi que travaille le physicien, le théoricien de la physique. Il pose l'existence de dimensions ou de particules pas encore observables, mais qui s'inscrivent dans un système de lois qui expliquent et prédisent le comportement de l'univers visible. C'est également ainsi que travaille le linguiste, en linguistique historique et comparative. Il va reconstruire des formes invisibles, c'est-à-dire non attestées, car purement orales et très anciennes, souvent antérieures à l'invention de l'écriture, des formes dont l'existence expliquera les similarités entre les langues, des langues aussi distantes que le bengali et l'islandais, par exemple. Pour ce faire, le linguiste s'appuiera sur deux principes de base. Le premier, c'est la régularité des changements phonétiques, car contrairement à l'évolution du sens ou de la grammaire, l'évolution des sons obéit à une certaine régularité qui permet d'établir des correspondances fixes, des lois phonétiques. Par exemple, si on prend le son « que » en indo-européen, alors l'astérisque devant le « k » indique que c'est un phonème hérité, reconstruit, donc hypothétique. Donc ce « k » hérité deviendra très régulièrement aussi « que » en latin, noté par la lettre « c », et il deviendra tout aussi régulièrement un « h » aspiré dans les langues germaniques. C'est pourquoi on fait remonter donc, à une racine « kerd », là-bas, « que », les mots cordis en latin et heart en anglais. Heart qui vient du germanique herten. Alors, par de multiples comparaisons de ce type, on établit des tables de correspondance phonétique et des lois d'évolution expliquant ces concordances. L'autre principe, c'est l'arbitraire du signe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation nécessaire entre une chose et le mot qui la désigne, ce qui explique que le concept de cheval soit dénoté par des mots aussi différents que « uma » en japonais, « pferd » en allemand ou encore « saldi » en basque. Donc, si un mot similaire est employé dans deux ou plusieurs langues avec approximativement le même sens, il n'y a que trois possibilités, hormis le cas où une onomatopée pourrait entrer en jeu, par exemple. Ou bien, c'est une pure coïncidence, comme l'anglais « bad » et le turc « bad » qui signifient tous les deux « mauvais », ou bien il peut y avoir un emprunt entre langues, comme football qui a été emprunté à l'anglais par le français, l'espagnol et à peu près toutes les langues. Ou bien, et c'est le cas qui nous intéresse, on peut envisager que cette similitude est le fruit d'une origine commune, d'un ancêtre commun à ces langues. Maintenant, quand est-ce qu'on s'est dit qu'il y avait peut-être un ancêtre commun, c'est-à-dire un ballon invisible sur notre terrain linguistique ? Les Grecs et les Romains avaient déjà aperçu des similitudes entre leurs langues, mais il les expliquait par des emprunts ou par une origine grecque du latin. Au Moyen Âge, Dante avait vu la filiation latine des langues romanes. Mais les choses se précisent avec la Renaissance et le développement de l'humanisme, car les érudits manient alors plusieurs langues anciennes et modernes. La référence d'alors étant la Bible, c'est par la descendance du fils de Noé, Japhet, qu'on explique la parenté entre ces langues. Le monde était divisé en trois, avec les trois fils de Noé, Sem, Cam et Japhet, chacun correspondant à une ère linguistique. C'est pour ça qu'on parle de langue sémitique encore aujourd'hui, et même sémito-camitique, si on prend certaines langues du Nil. Donc, tout ça, c'était bien pratique, mais le terrain de jeu s'est agrandi avec les grandes découvertes. Et dès 1583, un jésuite anglais parti aux Indes note aussi des similitudes entre les langues indiennes et le latin et le grec. Il faudra toutefois attendre le XVIIe siècle pour qu'apparaissent les premières vraies comparaisons entre langues. En 1640, le Hollandais Marcus Boxhorn évoque une langue ancienne comme ancêtre commun du latin et du grec, et même du persan et des langues germaniques. Il considère que c'est le scythique, langue d'un peuple contemporain des Grecs anciens, et qui habitait près de la mer Noire. L'hypothèse scythique sera reprise par d'autres érudits de l'époque, comme le français Claude Sommez, qui tentera les premières reconstructions des timons communs. Mais cette théorie avait toutefois pour défaut de poser un ancêtre à la fois trop bien identifié a priori, et surtout trop peu ancien, puisque contemporain des Grecs. C'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on sortira de l'impasse. Alors tout commence à Calcutta. Un certain William Jones, juge anglais nommé à la Cour suprême de cette ville, était convaincu qu'il fallait consulter de temps en temps les autorités juridiques hindoues. Il a donc entrepris d'apprendre le sanskrit, la langue sacrée indienne. Alors le sanskrit, c'est un peu comme le latin chez nous, c'est-à-dire que ça transmet les textes sacrés, et c'est une langue un peu très ancienne, même plus ancienne que le latin. Un grammairien nommé Panini, comme le sandwich italien, avait déjà établi une grammaire précise du sanskrit vers le IVe siècle avant notre ère. Sa description rigoureuse et systématique ne sera pas sans influencer la manière dont nos linguistes vont envisager les langues indo-européennes. Dans un discours prononcé devant la Société savante de Calcutta, en 1786, William Jones pose les bases de la recherche comparatiste en insistant sur les similitudes qui existent entre les racines des mots sanskrit, latin et grec, mais aussi, et c'est nouveau, entre les formes grammaticales, qui sont moins sensibles à l'emprunt. Et s'il pose un ancêtre commun, il ne désigne aucune langue spécifique. Il a mis le doigt sur l'invisibilité de notre ballon de foot. Son hypothèse audacieuse a rencontré un vif succès en Angleterre et surtout en Allemagne. En quelques années, une nouvelle science a pris son essor. Pourquoi tant de rapidité ? Alors, il y a trois facteurs. D'abord, la disponibilité des sources anciennes, notamment les manuscrits sanskrits, qui permettait d'avoir beaucoup d'éléments de comparaison avec le grec et le latin, qui eux étaient bien connus. Pour le gothique, qui est une langue germanique, on se servait d'une traduction de la Bible datée du IVe siècle après Jésus-Christ. Deuxième facteur, l'attrait pour les sciences, et spécialement la biologie, avec les hypothèses de Darwin, qui dessinent des arbres généalogiques des espèces. Donc on va se mettre à dessiner aussi des arbres généalogiques des langues. Enfin, dernier facteur déterminant, le romantisme allemand. À cette époque, on se tourne vers le passé pour construire la nation, l'unité de la nation, ce qui explique que la linguistique indo-européenne ait connu quelques récupérations nationalistes et racistes. Et on le voit dès le début, puisque l'indo-européen avait d'abord été baptisé indo-germanique en 1810. Le terme est d'ailleurs toujours utilisé en Allemagne. Les thèses racistes du XXe siècle ont cherché leur justification dans les hypothèses des linguistes, ce qui est aberrant, car une langue n'est pas liée à une population biologique unique. Hormis ces dérives qui délaissaient les faits au profit du fantasme, la linguistique historique a connu de vrais succès. Au début du XXe siècle, la famille indo-européenne s'étoffe avec la découverte et le déchiffrement du hittite en Anatolie, qui est écrit là en caractère cunéiforme, et du tocharien, ou ami-kuchi, à l'extrême ouest de la Chine. Les spécificités de ces langues vont révolutionner les études indo-européennes. Le hittite, surtout, va permettre de confirmer l'existence d'un phonème jusqu'alors hypothétique. En se basant sur des comparaisons et des déductions, Ferdinand de Saussure, qu'on a vu tout à l'heure en compagnie d'Albert Schweinhardt, avait en quelque sorte prédit l'existence et la position de ce phonème absent des langues jusqu'alors connues. absent des langues, mais visible en hittite. Ainsi, la linguistique, ici, se montrait vraiment scientifique, puisqu'elle avait prédit quelque chose. Cette vision plus précise du système des sons en indo-européen, qui connaîtra d'autres affinements par la suite, a permis aux chercheurs des générations suivantes d'aboutir à une véritable arithmétique de la langue. On peut ainsi décrire comment une racine porteuse de sens, donc dans l'exemple ici c'est l'éouk, pas trop comment ça se prononce, briller, se voit pourvue d'un ou plusieurs suffixes, et le cas échéant de désinences et, pour former des noms, des verbes et des adjectifs par exemple. Et comment ces formes vont évoluer phonétiquement selon des règles strictes pour aboutir aux termes que l'on rencontre dans les langues actuelles. Donc, en résumé, les tâches que se donne la linguistique historique et comparative sont l'élaboration d'un système de correspondance phonétique, lexicale et grammaticale, voire même mythologique, à partir de formes attestées, donc ça c'est une phase inductive, la reconstruction ensuite des étymons expliquant et reliant ces formes attestées, une phase déductive. Et enfin, peut-être, le repérage d'éléments culturels communs qui peuvent servir d'indice pour identifier d'hypothétiques propagateurs de la langue mère. Langue hypothétique, je souligne, dont les formes reconstruites ne sont qu'un reflet théorique et abstrait. Cette question de l'identification reste d'ailleurs très débattue, on en reparlera tout à l'heure. Bon, mais on s'accorde au moins, à peu près, sur la répartition géographique des langues indo-européennes, qui vont constituer notre terrain de jeu. On divise ces langues en 12 groupes, italique, germanique, slave, grec, baltique, balte, arménien, albanais, iranien, indien, anatolien et tocarien, qui sont deux langues disparues. Donc elles sont réparties en fonction de leur zone d'implantation, comme l'Italie pour les langues italiques, qui sont essentiellement les langues latines. On peut aussi représenter ces familles sous la forme d'un arbre généalogique. Il y a de multiples représentations possibles. Donc là, si l'on considère une évolution par divergence et engendrement successif des langues, ce qu'on appelle, d'un terme allemand, Stammbaum théorie, théorie de l'arbre généalogique. Mais on peut aussi utiliser une représentation presque météorologique par ce qu'on appelle des isoglosses, où l'on considère cette fois l'évolution par extension d'innovations locales, innovations linguistiques locales, qui s'étendent petit à petit, qui peuvent se croiser et se recouvrir partiellement, comme des ondes à la surface de l'eau. C'est ce qu'on appelle, toujours d'un terme allemand, Wellentheorie. Bon, sans doute que les deux modèles sont complémentaires. Alors, on va peut-être maintenant venir au poisson, qui nous offrira un cas concret des avancées et des limites des études indo-européennes. Donc les langues anatoliennes, il y a un point d'interrogation parce qu'on n'a pas vraiment identifié le nom avec certitude. Pour les autres langues, on peut voir déjà, je pense, quelques ressemblances, puisqu'on a pêché, pescado, peiché, pêcheté, poisson, ça se ressemble. Fiche, fiche, fiche et fisc. À l'est, on trouve riba, qui est assez similaire partout. Quand on va en Asie, on trouve matsya, matchali, mahi, ça se ressemble aussi. Alors d'autres formes paraissent un peu plus isolées, comme psari, en grec moderne. Alors ictus, c'est entre parenthèses parce que c'est la forme grecque ancienne, tout comme en arménien, dzuken, ça se décrit j-u mais c'est dzu, dzuken, est aussi la forme de l'arménien ancien. Donc, des formes comme psari, yask, lax, zuken, zuvis, tout ça, on ne sait pas trop. Ça a l'air un petit peu isolé. Alors, maintenant, voici la carte qui montre ce qu'on a reconstruit à partir de tous ces mots. Donc là, on voit que c'est beaucoup moins isolé, puisqu'on n'en a plus que 5 différentes. Donc, il n'y a que le tocarien, l'ox, qui a l'air un peu tout seul, mais il nous réserve une petite surprise. Donc, nos 5 racines reconstruites sont donc pixk ou pisk, dgu, riba, mats et lox. Cela nous amène à un premier constat, c'est qu'il n'y a pas de terme commun reconstruit pour désigner le poisson en indo-européen, puisqu'on en a 5. Alors, pourquoi une telle diversité? Le poisson, c'est une réalité plutôt courante, tout comme un bœuf, par exemple. Or, on a pour le bovidé un terme commun indo-européen, wous. Cette diversité tient d'abord, je pense, au fait que les langues indo-européennes se sont développées à l'occasion de migrations. Les hypothétiques locuteurs de l'indo-européen n'arrivait pas sur des terres vierges de toute présence humaine, puisque l'Europe est peuplée depuis environ 1,5 million d'années. Ils se sont donc trouvés en contact avec des influences linguistiques et culturelles autochtones. En outre, toute séparation de population aboutit à des innovations dans chaque groupe. En France, il y avait parfois des différences linguistiques d'un village à l'autre, voire même d'un quartier de ville à l'autre. Plus important, les migrants ont rencontré des environnements divers. C'est pourquoi les termes indo-européens désignant les arbres, par exemple, changent assez facilement de sens. Un terme qui désigne le être dans plusieurs langues indo-européennes, bagos, qui a donné le latin fagus ou l'anglais beech, s'est vu employé pour désigner le chêne en Grèce, phagos, sans doute parce que cet arbre est plus rare dans cette région. Pareillement, la présence et les types de poissons disponibles pouvaient être très variables d'une région à l'autre. Par ailleurs, les mots liés à la chasse, à la nourriture, relèvent parfois d'un langage codé, manifestation d'une forme de pensée magique qu'on appelle un tabou linguistique. Le chasseur craint de faire fuir l'animal ou d'attirer un prédateur en prononçant leur nom. Un terme imagé peut alors concurrencer une désignation plus directe. Donc, premier exemple, dans le Caucase, les chasseurs ossètes appelleront le cerf, ça se dit sag dans la langue commune, sikadzen, le cornu, ou sardzen, grosse tête. Plus près de nous, dans le domaine celtique, certains pêcheurs croient que le seul fait de prononcer le nom du loup empêche le poisson de mordre. Donc le patron d'un bateau prendra le premier poisson pêché et le jettera à l'eau en disant, pour conjurer le mauvais sort, « Tiens, kikwat, voilà ta part ». En breton, « ki », c'est le chien, « kwat », c'est le bois, la forêt. Donc le loup est désigné par une périphrase imagée « chien des bois ». Une désignation imagée, qu'elle relève d'un tabou, d'un argot ou d'une mode ou de la langue populaire, peut se répandre de manière pour devenir la désignation courante, surtout si elle apparaît plus adaptée ou plus expressive que l'expression habituelle, qui a tendance à s'user, tout simplement, par la fréquence d'emploi. Par exemple, notre mot « tête » vient d'un mot latin qui signifiait « peau de terre », comme nous, on dit par exemple « la cafetière ». Ben, ils disaient « le pot de terre », parce qu'ils n'avaient pas la cafetière. L'expression imagée populaire « testa » a remplacé « caput », l'expression courante plus neutre. Ou même le nom du renard, par exemple, vient du roman de Renard. Avant, on disait « goupil ». Et Renard a eu tellement de succès qu'il a fini par remplacer le nom courant qui venait de lui du latin « vulpiculus », le petit renard. Passons à notre premier étymon, qui relève sans doute d'un tel phénomène fondé sur le tabou. Donc « pisque » se reconnaît facilement dans le latin « piscis », qui est devenu « pêché » en portugais, « pêche » en espagnol, « pêché » en italien, « pêcheté » en roumain, et « poisson » en français. Le mot latin a aussi été emprunté, vous voyez, en albanais « peshke », ainsi qu'en breton et en gallois « pesque » et « piscodine », je suppose. Mais « pisque » est aussi à l'origine du celtique « yask » et du germanique « fisk ». Le germanique « fisk » a donné tout ce que vous voyez en rouge, « fiche », « fisk ». Ces évolutions sont le résultat des fameuses lois phonétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. De manière très régulière, un P hérité indo-européen devient un F dans les langues germaniques. Donc on peut comparer ici le latin pater et l'anglais father. On pourrait aussi mettre le grec podos et le grec foot. Le même P hérité disparaît dans les langues celtiques s'il se situe à l'initiale du mot. Ainsi, au latin pater correspond le gaélique ahir. Ça se dit ahir, mais ça s'écrit ater. Si P s'est maintenu dans pesque et piscodine, qui sont pourtant des langues celtiques, c'est parce que ce sont des mots empruntés au latin, à une époque où cette loi d'amuissement ne s'appliquait plus. Alors maintenant, revenons au tabou linguistique. Selon l'hypothèse d'Eric Hamp, pisque, qui a donc donné tous ces mots, ne serait pas un terme générique pour désigner le poisson, ce serait plutôt la simplification phonétique d'une forme pisque, qui signifie marqué, tacheté. C'est une forme qui dérive d'une racine peik, qui peut apparaître sous les formes pik et poik, comme toute racine indo-européenne, il y a des variations dans les voyelles, et qui porte le sens de orné ou marqué. On retrouve par exemple cette racine dans pictural. Cette racine est élargie par un suffixe sque, qui apporte en gros une nuance adjectivale. Donc pisque, ce serait le marqué, le tacheté. ce qui forme une désignation plutôt adéquate pour une truite qui a plein de petites taches, comme on le voit sur l'image. Donc notre poisson serait donc à l'origine une truite. Une formation parallèle existe dans les langues slaves, avec cette fois un suffixe « r », de même nuance que ce que « picre », qu'on voit en dessous, est devenu, selon les lois phonétiques, « pistre », et a donné le tchèque « pstrou » et le russe « pestrouchka », qui signifie « truite », et qui sont à rapprocher de l'adjectif russe « pistri » bigarré. L'association d'idées entre des taches et la truite existe aussi à rebours en français, puisque nous avons un adjectif pas très courant, mais bon, truité, qui veut dire tacheté. Étant un salmonidé de rivière et de mer présent dans toute l'Eurasie, la truite a pu apparaître au locuteur comme le prototype du poisson, d'où l'extension de son nom à tous les poissons dans la partie occidentale du domaine indo-européen. La descendance de pisque appelle quelques petites remarques. D'abord, on notera que la langue française se distingue de ses sœurs romanes par le recours à une forme suffixée. Le latin piscis aurait très régulièrement donné peis, pois, en ancien français, qu'on trouve dans un composé comme cras, pois, le gras poisson, c'est-à-dire la baleine. Mais la suffixation en on a permis de distinguer ce pois, monosyllabique, de ses homophones pois, comme petit pois, pois pesant, et pois noir comme de la poix. Ensuite, un petit exemple de toponymie française qui a conservé les traces du germanique fisque. Le nom du champ Figard à Fécamp et des rochers Figard de Lyon-sur-Mer ou Figard aussi à Agon-Coutainville dans la Manche seraient les descendants du terme germanique fiskigard, à peu près ça, enclos à poisson, composé de fisker, le poisson, et de gardel, l'enclos. Le nom de Fécamp lui-même pourrait remonter à un autre fisc, puisqu'on le trouve en 875 sous la forme fiscanum, qui est le nom de la rivière locale qui s'appelle maintenant Valmont. Donc fiscanum, on voit peut-être que ça dérive de fisc, comme on trouve en allemand des cours d'eau qui s'appellent Fischbach, le ruisseau à poissons. Enfin, l'espagnol a innové sémantiquement. Il a introduit une distinction entre pez, le poisson vivant, et pescado, le poisson pêché, est devenu aliment. Pescado, c'est le participe passé de pescar, pêcher. Alors, une opposition semblable existe en anglais, où on trouve, mais pour la viande seulement, où on trouve ox, par exemple, le bœuf vivant, qui s'oppose à beef, le bœuf qu'on va cuisiner. Voilà pour pisque. Maintenant, venons-en à riba. Donc, on l'a vu il y a un instant, le slave avait utilisé une autre racine dérivée de peik pour désigner la truite, pistre. La généralisation ne s'est pas faite et ce groupe linguistique a recouru à un autre terme générique pour désigner le poisson. Ce terme est riba, que l'on trouve dans tous les dialectes slaves, vous voyez, il ne change pas beaucoup, y compris dans des noms de lieux comme Ribnik, Ribnitsa, bassin à poisson, ou Ribinsk, Ribnaya, ville du poisson. Alors l'origine de riba est très obscure. Il y a longtemps, on l'a rattaché à l'allemand raupe, chenille, car ce mot apparaît dans le composé Aalraupe, utilisé en Allemagne du Sud pour désigner la lotte. Mais il faut bien avouer que le chemin sémantique est un peu difficile à suivre entre une chenille et un poisson. S'il ne s'agit pas d'un emprunt, donc riba, il se pourrait qu'il soit comme pisque, issu d'une racine signifiant tacheté, marqué. En effet, on peut le rapprocher de l'adjectif russe riab, bariolé, ou du lituanien raibas, tacheté, ou aussi un terme lituanien rumbas, marque, cicatrice. En tenant compte de ce dernier mot, on reconstruira une racine propre au balto-slave, rumba, qui n'a rien d'une danse, dérivée de la racine indo-européenne rei, tacheté, bigarré. Donc l'innovation propre au groupe balto-slave serait en quelque sorte parallèle à celle observée dans le domaine occidental avec pisque, avec la généralisation du prototype poisson tacheté, donc vraisemblablement un salmonidé, à l'idée de poisson en général. Il faut bien avouer que l'hypothèse est un petit peu légère, puisqu'elle repose sur peu d'éléments de comparaison, donc on dira prudemment que le mystère slave demeure. Passons maintenant au groupe formé par le grec ancien, le groupe balte et l'arménien. Ictus Dzouken, qui en arménien moderne se dit Dzouk, Zivs et Jouves, ont l'air assez différents. Et le rapprochement entre des formes si différentes peut surprendre, mais les principes d'évolution phonétique permettent de les superposer et de les faire remonter à Dgou. Voyons par quel miracle, bien peu miraculeux, on y parvient. Alors d'abord, un groupe de consonnes initiales est souvent instable. De ce fait, il peut arriver qu'il se simplifie ou qu'une voyelle initiale soit ajoutée comme une sorte de prothèse. C'est des phénomènes en fait assez courants. Ainsi, si on compare le français spécial et l'espagnol especial, en espagnol, on a un E initial qui sert de prothèse au groupe consonantique. C'est ce qui s'est passé dans ictus, où le grec a rajouté un I prothétique. Inversement, alors que le français dit psychologie, l'anglais dit psychology, car dans cette langue, le groupe PS initial se simplifie en S. Le lituanien, le letton et l'arménien ont, quant à eux, simplifié le groupe DG, DHGH, en G, GH, qui a évolué respectivement en je, ze et ze. Le kne qui se trouve en arménien est un suffixe secondaire, donc propre à l'arménien, que l'on rencontre par exemple dans mouken, qui est le nom de la souris, où si on supprime ce suffixe, donc on a mou, et on reconnaît facilement le latin mus ou le grec muos. Par exemple, myosotis, c'est les oreilles de souris. Enfin, dans le grec ictus, il y a un phénomène appelé métathèse, c'est-à-dire inversion de son. Là non plus, c'est pas très original, puisque un mot français aussi courant que fromage a connu une métathèse, puisque fromage vient du latin formaticum, dérivé de forma, la forme. Formaticum est devenu fromage par métathèse, tout comme dgou est devenu gdou, puis ictus en grec ancien. On pourra aussi citer dans le langage enfantin psychologie, pour regarder l'exemple précédent. La métathèse se retrouve aussi dans le nom de la terre en grec, qui se dit ktone, et qui vient, cette fois sans hypothétique, de gdem. Ce mot trouve son équivalent gem en lituanien, tout comme nous avons jouvis pour ictus. D'ailleurs, la ressemblance entre dgem et dgou a conduit certains à proposer une interprétation de dgou comme l'animal qui vit en dessous, c'est-à-dire sous les eaux. Car les Indo-Européens auraient peut-être classé les animaux sauvages en trois catégories, les animaux du monde supérieur, donc ceux qui volent, les oiseaux, les animaux du monde intermédiaire, les animaux terrestres, et enfin les animaux du monde inférieur, les insectes, les serpents et les poissons. Alors, quoi qu'il en soit de cet étrange rapprochement entre terre et poisson, dgou pourrait être le nom générique original de l'indo-européen commun. Sa forme et sa présence résiduelle dans des branches aussi distantes que l'arménien, le lituanien et le grec laissent en effet penser qu'il s'agit d'un terme très ancien. C'est donc peut-être cette désignation explicite du poisson qui aurait été remplacée dans les autres dialectes indo-européens par des termes crypté, imagé. En parlant d'image, rappelons qu'ictus a servi de signe de reconnaissance aux premiers chrétiens. Ils y voyaient un acronyme de Jesus Christos Theou Ios Soter, Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, et aussi un symbole associé au baptême, donc à l'eau, ce qui paraît plus logique pour un poisson. Tertullien écrivait ainsi: nous autres, petits poissons, comme notre poisson le Christ, nous naissons dans l'eau et nous ne sommes sauvés qu'en demeurant dans l'eau. C'est aussi dans la traduction grecque de la Bible qu'on voit apparaître l'une des premières occurrences du mot qui remplacera ictus comme nom du poisson en grec moderne. Parce qu'on l'a vu, en grec moderne, poisson se dit psari. Ce mot vient par aphérès, donc aphérès, on a vu tout à l'heure, c'est la chute d'une lettre à l'initiale, Donc, dopsarion, il vient dopsarion, mot qu'on trouve donc déjà dans l'évangile de Saint Jean, en 100 après Jésus-Christ, pour désigner les poissons multipliés en même temps que les pains par Jésus. En grec ancien, opsarion, comme le terme opson dont il est dérivé, désignait à peu près tout ce qu'on mange avec du pain et s'appliquait à tout aliment cuit qu'on mangeait avec du pain. Au départ, opsarion désignait même plutôt de la viande bouillie. Mais les petits poissons genre sardines et anchois étaient sans doute plus abordables pour la majorité des Grecs, ce qui explique le glissement de sens. Notons qu'on trouve dans l'évangile de Jean la même opposition entre ictus et opsarion qu'en espagnol entre pez et pescado, c'est-à-dire le poisson-aliment, opsarion devenu psari, qui a pris par la suite la valeur d'ictus, le poisson vivant. Comme si, pour un grec, un bon poisson était un poisson mort et dans son assiette. La valeur alimentaire du poisson nous amène à notre quatrième étymon, mats, dans le domaine indien et iranien peut-être. Donc, une désignation imagée met en avant telle ou telle qualité d'un objet. L'aspect visuel a prédominé, semble-t-il, pour pisque et peut-être pour riba, s'il signifiait bien à l'origine marqué tacheté. C'est l'aspect plutôt pratique, l'usage du poisson comme aliment, qui l'a emporté en grec moderne et, peut-être, en indo-iranien, comme on va le voir. En effet, matsya en sanskrit, matchli en ourdou ou macho en romani c'est la langue des Roms, dont on a beaucoup entendu parler, et peut-être aussi les formes du groupe iranien comme mahi ou mohi pourraient se rattacher à une racine mades, signifiant aliment. On a aussi proposé de rattacher ces mots à la racine mad, humide, gras. Mad a donné en latin par exemple madeo, ici, être humide ou être ivre, matus, ivre, et en sanskrit madati, faire des bulles, être gai, être ivre. Ce qui n'est pas sans rappeler l'expression anglaise to drink like a fish, boire comme un poisson, c'est-à-dire comme un trou. Mades, aliment, dérive probablement de mad, humide, gras. Puisqu'autour de cette racine gravite un ensemble de termes en rapport avec la nutrition. On trouve par exemple le grec mastos, la mamelle, le germanique mati, qui a donné en anglais meat et mate, le compagnon. C'est le compagnon avec qui on partage sa nourriture. On a la même image en français, puisque compagnon est dérivé de pain. Mad est aussi présent dans l'allemand mesten, qui veut dire engraisser, et dans l'albanais maz, la crème. Le poisson aliment se situe à la limite entre la chair qu'il apporte et le liquide où il vit, ce qui semble assez bien correspondre aux divers dérivés de mad. D'autant que matsya désigne précisément le petit poisson, celui qui se fait manger. En sanskrit, la loi de la jungle s'est traduite par matsya nyaya, la loi des poissons, où le gros poisson mange le petit. C'est d'ailleurs parce que le sage Manu avait protégé contre ce destin un petit poisson en le retirant de la rivière, que l'humanité a été sauvée, figurez-vous, puisque ce petit poisson, matsya, n'était autre que le premier avatar de Vishnu. Et Vishnu, en remerciement, a annoncé le déluge à Manu, qui est en fait l'équivalent de notre Noé, puis il a tracté son arche, qui contenait des graines et 7 sages hindous, plutôt que des animaux, jusqu'à une montagne de l'Himalaya. Pour en finir avec ce déluge de linguistique et de poissons, déplaçons-nous à notre tour, pas très loin de l'Himalaya, plus précisément à l'extrémité ouest de la Chine actuelle, dans le bassin du Tarim, qui offre ses oasis au désert du Taklamakan. Là, nous trouvons le terme « lax », qui désignait le poisson en tant qu'arien, la fameuse langue dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était utilisée entre le 5e et le 13e siècle de notre ère. Donc vraisemblablement issu d'une racine indo-européenne lax ou lox, ce mot qui nous semblait isolé tout à l'heure est en fait à relier à l'allemand lax, au russe lososia, au lituanien lachicha, qui tous veulent dire saumon. Donc là, on a un lien entre encore le saumon et le poisson. On a proposé pour ces mots un rapprochement avec une racine lec, signifiant bondir, sauter, qu'on trouve dans le latin locusta, ou dans le grec lekein, qui veut dire sauter. Le saumon est bien un poisson qui bondit pour remonter les cours d'eau. Mais cette étymologie semble plutôt être un calque de celle de salmo, qui est vraisemblablement une étymologie populaire d'ailleurs. Salmo, le saumon en latin, qui est un mot de formation propre au latin et qu'on fait dériver du verbe salire, sauter. Une autre étymologie, qui va peut-être plus dans le sens de ce qu'on a vu jusqu'à présent, fait dériver lax d'une base lac signifiant tacheter, barioler, qui a donné par exemple le laiton, lasse, mouchture. Il y aura donc là encore le même processus que pour pisque et peut-être riba, avec cette fois un terme bien plus nettement relié au salmonidé. Maintenant, lox est-il un terme indo-européen commun pour saumon, devenu le terme pour poisson en tocarien, parce qu'il n'y avait pas de saumon dans cette région, ou serait-ce l'inverse qui s'est produit, un terme générique pour poisson qui se spécialise pour saumon dans une partie du domaine occidental. Dans ce second cas, pisque aurait pris la place laissée vacante par lox après sa spécialisation. On ne peut pas dire qu'il n'y ait de certitude sur le sujet, c'est même très loin d'être le cas. Si l'on admet que dgou était le générique d'origine, alors lox pourrait bien être un spécifique et désigner une espèce de salmonidé. Mais il est possible qu'il y ait eu, par exemple, une répartition en deux classes génériques des poissons. Ça, on ne peut pas vraiment le dire. La signification de lox a servi d'argument dans le débat sur la localisation des proto-indo-européens. En effet, en posant que lox désignait uniquement le saumon atlantique, là-haut, salmo salar, absent des fleuves qui se jettent dans la Caspienne, la mer Noire ou la Méditerranée, certains chercheurs utilisaient ce poisson comme argument pour situer le foyer d'origine indo-européen dans une région irriguée par des fleuves se jetant dans la mer du Nord et la Baltique, donc en Allemagne du Nord. Mais comme on l'a vu, il n'y a pas de certitude sur la signification de lax, sur son identification au saumon, et encore moins avec le saumon atlantique. Il pourrait aussi avoir désigné en fait le salmonidé en général, dont un prototype pourrait aussi bien être la truite saumonée, Salmo truta labrax, ou Salmo truta caspius, que l'on trouve en abondance dans les rivières au nord de la Caspienne et de la mer Noire. Sur ce fameux foyer d'origine, le lieu où se trouvaient donc les possibles indo-européens avant qu'ils se séparent pour migrer vers l'Europe et vers l'Asie, donc avant différenciation des divers dialectes, beaucoup d'hypothèses ont été formulées. Vous en voyez un nombre en dessous, là. On le voit, diverses zones ont été proposées, et cette question n'a pas échappé aux biais racistes, qui tendaient à placer l'origine des Indo-Européens, identifiés à de blonds ariens virils, dans le nord de l'Allemagne. Vous voyez une carte là-haut qui date des joyeuses années 40. Aujourd'hui, la linguistique, l'archéologie et même la génétique coopèrent dans le but d'identifier de manière un petit peu plus objective un foyer original des hypothétiques propagateurs des langues indo-européennes. Alors, deux hypothèses sont en faveur en ce moment. D'une part, celle qui propose, sous deux versions différentes, une origine anatolienne des indo-européens, dont l'immigration correspondrait à la diffusion des techniques agricoles à partir de 7000 avant Jésus-Christ. D'autre part, l'hypothèse dite pontique ou des kourganes, qui situe les locuteurs de l'indo-européen commun sur les rives de la moyenne Volga et de la mer Noire, vers en gros 4500 avant Jésus-Christ, là où se trouvait une population qui a laissé parmi nombre de traces archéologiques des sépultures constituées de fosses surmontées de petits tumulus, vous voyez version extérieure, version intérieure, ces petits tumulus qui sont précisément des kourganes, puisque kourgan vient du turc et signifie tumulus. Donc on remarquera qu'on revient ici à la mer Noire, comme pour les sites de Boxhorn au XVIIe siècle, mais cette fois, il s'agit d'un peuple beaucoup plus ancien, s'il a existé. Les études indo-européennes sont en perpétuelle évolution ou révolution, et notre ballon invisible n'a pas encore livré tous ses secrets. En conclusion donc, on retiendra que le lien entre salmonidés et poissons semble bien avoir une certaine importance dans les langues indo-européennes, puisque la truite, comme le saumon, pourrait être liée d'une façon ou d'une autre à trois termes génériques désignant le poisson, pisque, pisque, riba et lax, si l'on accepte les étymologies qu'on a passées en revue et qui ne sont certes pas incontestables. Deuxième point, ces termes auraient peut-être remplacé le terme porteur d'une forme de classification plus ancienne des animaux sauvages en fonction de leur sphère d'existence, donc d'où. Et enfin, les innovations dans les dénominations du poisson reposeraient sur l'extension d'un prototype à toute la catégorie. D'une part, un prototype identifié par son aspect visuel, le salmonidé caractérisé par sa peau tachetée. D'autre part, le poisson perçu dans son aspect pratique d'aliment, qui a amené les dérivés de mads utilisés dans les langues indo-iraniennes et à une époque beaucoup plus récente, le nom psari du grec moderne et pescado en espagnol. Voilà. Et si vous vous demandez si on peut remonter au-delà de l'indo-européen, certains y pensent. Et dans ce cas-là, le nom du poisson, ce serait dig, qui serait l'ancêtre de dgoug. Voilà.